Bonsoir, eh bien, deuxième partie d'Onde Noire avec, après l'interview de Romain Slocombe, eh bien, les livres qui nous ont interpellés ce dernier mois, on va dire. Jacques, tu vas commencer par un roman au nom un petit peu étrange que tu vas d'ailleurs nous expliquer.
Voilà, le roman s'appelle Puerto Apache, il est de Juan Martini et il est traduit par Julie Alfonsi aux éditions Asphalt. Alors ce roman commence de façon assez musclée, par un passage à tabac dans un local, dans un hangar un peu glauque, un petit peu à la façon de Réservoir Dog, sauf que les trois cogneurs interrogateurs sont un peu des abrutis et en même temps ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dire au tabassé. Ce qui va lui permettre d'ailleurs à se tabasser, vu qu'ils sont un peu abrutis.
Tabasser, c'est mignon, oui, le tabasser. Voilà,
je pense pas que ça existe. Mais
Oui, le verbe, mais...
Cet homme le tabasser, donc, il est surnommé le rat. Et donc, il va réussir à s'échapper, du coup, de ses tortionnaires. Et il va chercher ensuite à savoir pourquoi et comment... pourquoi et surtout il s'est fait tabasser et par qui c'est qui a commandité ce tabassage. Le roman, en fait, va se dérouler... avec deux narrations ensuite. Au présent, le rat qui donc s'échappe va chercher, comme je le disais, à savoir pourquoi et qui a voulu le faire parler, et ce qu'il voulait le faire dire aussi d'ailleurs. Et au passé, en flashback, on va apprendre l'histoire de ce quartier, de ce bidonville, de cette zone de résistance qui s'appelle Puerto Apache, d'où le titre. Ça se situe, Puerto Apache est un quartier, enfin... un squat de Buenos Aires, donc en Argentine. Les habitants de ce squat proclament eux-mêmes à l'entrée de ce Puerto Apache, donc, nous sommes un problème du 21e siècle. Il y a une grande banderole qui met ça à l'entrée. Et le rat, donc, va nous raconter la naissance de ce bidonville en 2000, immense squat sur près de 20 blocs dans le quartier des docks. Bloc doc. C'est un squat autogéré et cela fonctionne plutôt bien. Bien sûr, tout n'est pas dans la plus grande légalité. Les magouilles et les trafics vont bon train. Et pas que des petits trafics. Ce qui explique d'ailleurs peut-être le tabassage, parce que quand il y a des trafics un peu importants, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Et donc, Laura, le narrateur, va déambuler pendant 220 pages, à pied, dans des voitures plus ou moins pourries. Il va aller de sa femme à son ancienne maîtresse. Maîtresse, peut-être même traîtresse. Le rat va nous raconter les luttes de pouvoir au sein de la petite communauté. Il y a un passage très intéressant qui est la visite d'une chaîne de télé qui veut faire un reportage sur le vif, comme on en voit souvent même dans nos télés à nous. Et là, c'est vraiment parfait, c'est très très bien rendu des deux côtés, aussi bien du côté des gens de la télé que en face dans la patte. La force de Juan Martini, c'est qu'il ne fait aucun misérabilisme. Et ni aucun voyeurisme, en fait, en nous racontant ce quartier. Il le décrit simplement. Il peint toute une fresque de personnages qui vont faire l'essence et le quartier lui-même, en fait. Il peint, peut-être il photographie même, ça serait peut-être plus proche. Avec, bien sûr, une intrigue de roman noir, de roman de gangster, qui reste sous-jacente pour maintenir l'attention romanesque. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ce quartier existe vraiment, ou si ce n'est qu'une invention de l'auteur pour nous raconter, en fait, à travers ce quartier... son pays, son économie, la corruption galopante et les éternels laissés pour compte du système, quand le système fonctionne bien, ou encore pire, quand le système ne fonctionne plus. C'est une très très belle découverte latino-américaine des éditions Asphalt, un auteur qu'on ne manquera pas de suivre, d'autant que ce roman, qui est le premier traduit, date déjà de 2002, donc on peut penser qu'il y en aura encore à suivre.
Quant aux squats, malheureusement, qui sont des problèmes, entre guillemets, du système, on sait à quel point ils sont nombreux. Et même si celui-là n'existe pas, on peut penser que c'est quand même une métaphore de milliers qui existent, malheureusement, à travers le monde.
Tout à fait.
On va se rapprocher de l'Europe, puisqu'on va aller en Angleterre. Et donc, je vais vous parler d'un roman de John Harvey, qui s'appelle Ténèbres, tout au moins dans sa traduction en français. C'est un roman traduit par Karine Lalichère et c'est un roman qui, comme tous les romans de John Harvey, sont parus chez Rivage Thriller, tout au moins dans leur première édition. Ce dernier roman nous fait retrouver un personnage qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est Charles Resnick. Avant donc d'évoquer cette histoire, juste préciser que ce personnage est apparu pour la première fois en 1989 dans un roman de John Harvey qui s'appelait Cœur solitaire, déjà chez Paillot Rivage. On l'avait suivi pendant 11 aventures qui décrivaient à peu près une vingtaine d'années de l'Angleterre, des années 90 à 2010. Et on l'avait quitté avec beaucoup de chagrin en 2008 avec Cold in Hand. 6 ans plus tard, donc on est en 2014, enfin nous on est en 2015, mais John Harvey en 2014 décide d'en faire un de ses personnages principaux avec un autre flic, Catherine Newroche. Alors ça par contre, la prononciation de Catherine, c'est pas gagné. Hein. C'est déjà un personnage que l'on a rencontré et qu'on a apprécié dans Ligne de fuite. On a un Resnick vieillissant qui a été tiré de la retraite, puisque évidemment maintenant il est à la retraite depuis un moment.
Et oui, parce que dans les romans modernes, les personnages vieillissent.
Exactement. Et il a été tiré de sa retraite pour devenir citoyen réserviste dans un commissariat. En gros, on lui donne des tâches rébarbatives, mais qui le sortent quand même de chez lui chaque matin. Il n'y a plus de femmes. De ses 4 chats, il n'y en a plus qu'un seul qui est survivant. Et donc, au début de ce roman, on va retrouver le cadavre d'une femme disparue en 1984, donc, petit calcul simple, à 30 ans plus tôt, à Bledwell Vale. Et là, ses supérieurs vont penser tout de suite à lui. Tout simplement, parce qu'à cette époque, Resnick tentait de gérer une situation explosive. 1984, c'est la période de la grève des mineurs, dont on sait qu'elle fut durement réprimée par le gouvernement anglais, Margaret Thatcher à sa tête. Le corps qui vient d'être retrouvé se trouve en fait être celui de Jenny Hardwick, elle-même femme de mineur, dont le couple n'allait pas trop puisque le mari faisait partie, lui, des jaunes, ceux qui ne faisaient pas grève, alors que Jenny prend fait et cause pour les mineurs et devient même une des meneuses et, je dirais presque, une des égéries. Enquêter sur un meurtre 30 ans plus tard, c'est pas aisé du tout, mais il y a à la fois les souvenirs de Resnick, son métier, et puis la détermination de Catherine Newroche. Et ce récit, il va alterner de manière très fluide entre l'histoire de Jenny en 1984 et l'enquête en 2014. 1984, la condition d'une femme de mineur, en proie à la violence des hommes, à la pauvreté, cette femme qui s'engage dans la lutte, qui s'oppose à son mari, à certains de ses amis. 2014, là je ne parle pas de l'enquête, hein, je parle évidemment de l'environnement. 2014, les femmes travaillent, les femmes décident, mais sont encore la proie de la violence des hommes. Puisque la policière Catherine va être harcelée, tabassée par son ex-copain. Comme à son habitude, John Harvey n'est pas ici un donneur de leçons. Il raconte juste une société qui n'a finalement pas vraiment évolué. C'est vrai pour la condition des femmes, c'est vrai aussi pour celle des ouvriers et pour la condition actuelle de beaucoup de salariés en Angleterre et partout ailleurs. C'est même vrai pour la condition des flics. Et Resnick est de plus en plus désabusé, à l'instar de son créateur. Mais les deux, Resnick, le personnage, et John Harvey, le créateur, savent qu'il reste encore, quelque part, quelques beaux êtres humains, ceux qui ont une solidarité sans faille. Et puis il leur reste à tous les deux le jazz. En particulier, les morceaux de Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, ou encore Eric Dolphy. Et justement, un morceau dont le titre correspond bien à ce livre, Jacques.
Ben, tout à fait, c'est donc effectivement un morceau qui est cité lui-même, qui est cité par John Harvey lui-même dans le roman, qui s'appelle Agression, donc de Eric Dolphy, enregistré au Five Spot de New York le 16 juillet 1961. Vous voyez, ça date pas d'hier.
Oh non.
Avec entre autres Booker Little à la trompette et Mal Waldron au piano. Dolphy, lui, joue dans ce morceau de la clarinette basse et un peu d'alto, me semble-t-il. Un petit extrait, car le morceau fait 16 minutes, mais peut-être que Gilbert Dalto, vient j'en parler justement, vous passera peut-être un jour entier dans son émission qui nous suit.
Note d'Éric Dolphy. Donc, émission très variée, tout au moins les romans choisis, puisqu'on vous a parlé d'un nouvel auteur, Juan Martini, d'un auteur bien en place et bien connu, John Harvey, et une vedette carrément, puisque Jacques, tu vas nous parler d'un roman de...
Denis Lien. Et ça fait donc effectivement un petit moment qu'on ne nous avait pas parlé dans cette émission de Noir. Donc je vais faire un rapide rappel pour ceux qui auraient oublié ou qui ne connaîtraient pas carrément Denis Lien. Lien, il a créé une série mettant en scène les détectives Kenzie et Gennaro, dont le plus fameux est Gone Baby Gone, qui a été adapté au cinéma, fort bien d'ailleurs, par Ben Affleck. Il a aussi écrit deux autres remarquables romans, vraiment hors série, qui sont Mystic River et Shutter Island, et qui sont d'ailleurs tous les deux adaptés au cinéma, l'un par Clint Eastwood et l'autre par Martin Scorsese, ce qui n'est quand même pas rien.
Deux très bons romans.
Et deux très bons romans, deux bons films et deux grands metteurs en scène. Et en 2009, il s'est lancé dans une nouvelle série d'un autre genre, racontant la saga de la famille Coughlin. Des polars historiques, mais historiques de l'Amérique, parce qu'en fait, ça commence au XXe siècle même, en fait. Début du XXe. Et donc, tout d'abord, le premier, c'était Un pays à l'aube. Et ça racontait donc le père, le patriarche, Thomas Coughlin, qui est de la police de Boston. Et il y a aussi son fils Danny. Et ça raconte un peu les luttes syndicales de l'après-premier conflit mondial. Dans Ils vivent la nuit, quelques années plus tard, il s'intéresse à Joe Coughlin, le dernier fils de Thomas. Et lui, Joe, il va faire son ascension, mais dans le monde du crime organisé, au milieu des années 20. C'est la prohibition. Et ils vont quitter Boston pour la Floride et Cuba. Dans le dernier de la trilogie, dont je vais enfin vous parler ce soir, qui s'appelle Ce monde disparu, on retrouve le même Joe en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale donc. Il s'est retiré des affaires, enfin du moins officiellement, il a passé la main. Mais gangster un jour, gangster toujours, en fait il devient une espèce de super conseiller en affaires louches. Ou pas forcément louches d'ailleurs.
C'est joli. Hein. Oui, c'est joli. Quoi, les mafieux qui bordent la Méditerranée font à peu près la même
voilà.
chose.
Et d'ailleurs, dans le parrain, Michael Corleone se rachetait aussi une conduite en essayant d'avoir des
affaires palouches.
Voilà. Et là, mais par contre, bon, lui, il est assez fort. Et donc, ses conseils rapportent beaucoup d'argent à ceux qui l'écoutent, qui les suivent, et à lui-même d'ailleurs. Du coup, Coughlin, il est assez surpris, même dubitatif, quand il apprend qu'il y a un contrat sur sa tête pour l'éliminer définitivement. Et c'est précisé en plus le mercredi des cendres, un jour saint. Pour ces catholiques fervents, bien qu'ayant des litres et des litres de sang sur leurs mains.
Ah oui, mais le sang du Christ, voilà.
Il va donc, surtout pour protéger son jeune fils, chercher le commanditaire.
Ça me rappelle une histoire quand même. Hein,
oui, oui.
C'est quand même...
Alors le côté historique, en fait, a presque disparu. Bon, il faut dire qu'on se rapproche de nos jours, on est en 43. Et ça devient un pur roman de gangster. Un exemple, un des gros problèmes de Joe et de son successeur, c'est qu'ils ont du mal à trouver de bons et fidèles hommes de main. Parce que la plupart d'entre eux sont
personnels.
Mais non, c'est
personnel.
Pas ça, c'est qu'ils sont tous mobilisés sur le front, puisque c'est pendant la guerre. Donc en 1943, les Américains sont rentrés en guerre. Donc tout le monde, même les malfrats, sont rentrés dans l'armée.
Puis oui, c'est peut-être des bons soldats en plus.
Voilà, mais du coup, pour avoir des bons tueurs, ça devient plus difficile. Mais bon, Lien est un auteur talentueux et habile, et donc il réussit à nous embarquer dans les arcanes de son histoire, et il réussit aussi à nous faire partager les tourments de Coughlin qui se voit vieillir. Et qui trouve que les truands d'aujourd'hui n'ont plus le même sens de l'honneur qu'autrefois. On l'a déjà entendu, mais Denis Lien est très fort et ça marche parfaitement. Et il a aussi l'art de créer des personnages, des situations, des scènes marquantes, comme par exemple cette visite chez un possible commanditaire qui s'appelle King Lucius, c'est une espèce d'immense géant, qui est un partenaire en affaires, on va dire comme ça. Et il vit sur un bateau protégé par une bande d'immenses gardes du corps complètement drogués, ils sont tous stone. Et la scène est saisissante. Alors quand on la lit la deuxième fois, elle fait presque rire, mais la première fois, elle prend un peu aux tripes. Voilà, c'est un très bon, très très bon roman de gangster, très prenant, passionnant, mais qui n'arrive pas tout à fait au niveau des grands titres que je citais tout à l'heure.
Il n'y a pas que les gangsters qui sont nostalgiques aussi,
voilà.
Un petit peu. Voilà, on va peut-être reciter et le titre et la traductrice.
Et l'éditeur que j'ai pas... Voilà, donc Denis Lien, Ce monde disparu aux éditions Rivage Thriller, comme tous les romans que j'ai cités tout à l'heure. Et il est traduit, comme souvent, par Isabelle Maillet.
Voilà, et bien c'est la fin de notre émission. On va vous saluer et vous dire chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Au revoir. Au revoir.